franceinter.fr.
Le journal. Bonjour Yves Decamp.
Bonjour.
Qui tout double pour Matteo Renzi en Italie, le chef du gouvernement qui a mis sa démission dans la balance veut réformer les institutions par référendum, mais c'est le non qui tenait la corde dans les derniers sondages. En Autriche, l'extrême droite aux portes du pouvoir, son candidat Norbert Hofer pourrait accéder à la présidence face au candidat écologiste libéral. Ce serait une première en Europe. Dans ce journal également, la consécration de la nouvelle église orthodoxe russe de Paris par le patriarche de Moscou, Kirill. Plus de 80 millions d'euros de promesses de dons pour le Téléthon, un peu plus que l'année dernière, mais on peut encore donner toute la semaine au 36-37. Et puis en foot, des supporters de Metz qui gâchent la fête en lançant des pétards. Le gardien de Lyon et le médecin du club ont été blessés, le match annulé alors que leur équipe menait 1-0.
France Inter.
D'abord à Cuba, les adieux au leader Maximo. Après une semaine d'hommages et de manifestations, les cendres de Fidel Castro sont inhumées ce dimanche au cimetière de Santiago de Cuba, la deuxième ville du pays, qui fut surtout le berceau de la révolution castriste. Le président Raúl Castro a voulu des funérailles simples, en famille et en présence de quelques dignitaires cubains et étrangers, les funérailles qui seront filmées par la seule télévision d'État, Michel Fourneau.
Une démonstration d'hommage avec des Cubains fatigués ce matin par cette semaine de journée en plein soleil pour célébrer le passage de ce matin. Une demi-heure devant nous là était à mon sens assez drôle. Les Yo soy Fidel scandés habituellement avec beaucoup de vigueur, bien là est un petit peu mollasson, plein de manque de sommeil. Hein. En fait, par exemple. Liliane Noriega, la cinquantaine, n'a pas dormi la nuit dernière. Elle est prof de pédagogie à l'université d'Orient, ici à Santiago. On a veillé toute la nuit sur la place. On a fait une veillée funèbre avec des photos de lui. Et lui, là maintenant, on va lui dire au revoir. Oui, je suis fatiguée de ne pas avoir dormi, mais on reste ici sans fermer les yeux. C'est la dernière chose qu'on peut faire pour lui. Liliane, comme la plupart des Cubains présents sur le parcours ce matin, prévoit d'aller au cimetière, mais pas tout de suite. Aujourd'hui, vous l'avez dit, Fidel appartient aux intimes, qu'il soit membre de sa famille ou grand de ce monde. D'ailleurs, à quoi va ressembler la tombe du leader Maximo? C'est un mystère. Apparemment, elle est modeste, effectivement, à côté du mausolée de Marti, le grand héros de l'indépendance. Fidel Castro reposera aux côtés des habitants de Santiago et puis de quelques autres de ses compagnons d'armes de 1959. La tombe familiale à Biran, son village natal, avec trois générations de Castro Ruiz, est sacrifiée, si je puis dire, à la nécessité d'entretenir le mythe du héros national, Yves.
Michel Fourneau avec Laurent Macchetti à Cuba. Aucun lieu ni monument cubain ne portera le nom de Fidel Castro, conformément à ses vœux, a précisé Raúl Castro dans son discours hier. Le président cubain qui doit passer la main en 2018 a juré de défendre la patrie et le socialisme. À ses côtés, quelques chefs d'État d'Amérique latine. Et pour la France, la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, dont les propos ont pu surprendre. La numéro 3 du gouvernement n'a pas fait dans la demi-mesure en saluant les libertés religieuses et de conscience qui règnent à Cuba, où quand on demande des listes de prisonniers politiques, on n'en a pas. Fournissez-moi des listes, a dit Ségolène Royal, et à ce moment-là, on pourra faire quelque chose. Propos inconcevable pour l'écrivain cubain en exil, Jacobo Machover, indigné au téléphone d'Olivia Ferrandi.
Là, il y en a plusieurs dizaines selon la Commission cubaine pour les droits de l'homme. Il y en a eu des milliers tout au long du régime castriste, des milliers de prisonniers qui ont été condamnés à 20 ou à 30 ans et pour rien du tout. Et il y a eu aussi énormément de fusillés et énormément de Cubains qui sont morts en mer en essayant d'échapper au paradis socialiste que nous dépeint Madame Ségolène Royal. Je dois vous dire que je suis véritablement indigné par la position officielle française de la numéro 3 du gouvernement, Madame Ségolène Royal, est complètement aveugle ou elle est fanatisée par la propagande qu'il y a actuellement à Cuba autour de Fidel Castro.
En Italie, Matteo Renzi a quitté tout double sur sa réforme constitutionnelle soumise à référendum. Les derniers sondages donnaient le nom vainqueur, d'autant que le chef du gouvernement a mis sa démission dans la balance et qu'il est aujourd'hui très contesté, y compris au sein de son propre parti, où des frondeurs, se sont rangés dans le camp du non. Tout dépendra donc du taux de participation, de très nombreux électeurs avouant ne pas tout comprendre de cette réforme complexe, comme ici à Naples, Marie-Pierre Véro.
Ce référendum a créé beaucoup de confusion, nous explique Luca, 28 ans. Notre génération se divise entre ceux qui sont très confus et ceux qui sont extrêmement confus. La réforme Renzi, censée simplifier la vie politique italienne, apparaît en effet très complexe aux yeux de beaucoup. Suppression du Sénat, remplacée par une Chambre des régions, qui n'aura plus le pouvoir de renverser le gouvernement ni de voter les lois. Suppression des provinces, l'équivalent de nos départements, du Conseil national du travail. Redistribution des prérogatives entre les régions et le pouvoir central, nouveau mode d'élection du président. Il faudrait être un expert en droit constitutionnel pour y voir clair, soupire Beatrice, une jeune actrice napolitaine. D'autant que la campagne, à coup d'injures, voire de mensonges, n'a pas aidé.
Ce que je sais, c'est que je ne suis pas assez informée pour me prononcer. Parce que nous n'avons pas vraiment d'informations. Ce qui nous est dit est toujours subjectif, jamais objectif. Parfois, il y a même une sorte de chantage qui s'exerce envers ceux qui vont voter. Par exemple, j'ai lu dans un journal que ceux qui voteront non doivent s'attendre à ce que toutes les banques fassent faillite au lendemain du référendum. Alors moi, j'ai bien envie de voter blanc. Je ne me sens pas d'avoir un avis éclairé dans un sens ou un autre.
L'incertitude ne sera levée que tard dans la nuit. À Naples, Marie-Pierre Véro, France Inter.
Après le choc du Brexit et la montée des mouvements populistes, c'est toute l'Europe qui craint aujourd'hui une nouvelle phase d'instabilité dans la troisième économie de la zone euro. Même chose en Autriche, où l'extrême droite pourrait accéder ce soir à la présidence, ce qui serait une première en Europe. Le vice-président du Parlement, candidat du Parti de la Liberté, Norbert Hofer, défie l'écologiste libéral Alexander Van der Bellen, dont l'élection au mois de mai sur le fil avait été invalidée. Bien que le rôle du président autrichien soit essentiellement protocolaire, la victoire de Norbert Hofer serait symboliquement forte. Là aussi, Cyril Sauvageau, tout va dépendre, entre autres, de la mobilisation des électeurs.
Oui, une première indication, il y avait du monde ce matin dans les bureaux de vote à Vienne, un flot continu d'électeurs qui, pour la plupart, ont fait leur choix depuis bien longtemps dans cette longue campagne, mais il fallait se remotiver, retourner à l'isoloir. Pour empêcher l'extrême droite d'accéder au palais de la Hofburg, il faudra une forte mobilisation. Or, rien n'est joué, car même dans ce quartier de Vienne, plutôt orienté à gauche, Van der Bellen ne suscite pas l'enthousiasme. La campagne de ces derniers mois a encore aggravé la défiance vis-à-vis des politiques, c'est ce qu'estime Louisa.
Cette campagne a été un désastre. Ils ont imposé aux électeurs des débats d'un niveau lamentable. J'espère quand même que Van der Bellen va gagner. C'est le moins pire des deux. Depuis 6 mois, Hofer a dit des choses que je trouve inacceptables.
Plus jeune, plus dynamique, plus agressif, Norbert Hofer a donné le tempo de la campagne. Alors, sera-t-il le prochain président de l'Autriche? Réponse ce soir, ou plutôt sans doute demain, car le résultat s'annonce très serré. Au mois de mai, il n'y avait que 30 000 voix d'écart entre les deux candidats.
Cyril Sauvageau, en direct de Vienne. En France, 5 bulbes dorés en plein cœur de Paris, architecture caractéristique des églises orthodoxes russes. L'église de la Sainte Trinité, inaugurée le 19 octobre sans Vladimir Poutine, qui n'était pas le bienvenu à l'époque à Paris, a été consacrée ce matin par le patriarche de Moscou, Kirill, entouré de ses représentants en France, à l'occasion d'une longue cérémonie en slavon, la langue de l'église russe, Justine Dinché.
Le rite de consécration a duré près de 2 heures. Une messe de plus de 2 heures a suivi, 2 heures de chant en slavon et un discours du patriarche. Et Kirill, qui a remercié la France et la mairie de Paris. Ce centre est la preuve que nos cultures et nos peuples sont proches, a-t-il dit plusieurs fois. La cérémonie a été écoutée par environ 200 personnes amassées debout dans cette nouvelle église de la Sainte Trinité. Et quelques têtes connues, la chanteuse Mireille Mathieu, coiffée d'un foulard comme le reste des femmes, et l'acteur français Robert Hossein, Biden, lui aussi ami de la Russie. En revanche, pas d'officiel, pas de représentant du gouvernement ou d'élus locaux. Ce projet de centre culturel et spirituel orthodoxe, entièrement financé par le Kremlin, embarrasse. Au sein même de la communauté orthodoxe, un archevêché représentant le patriarcat de Constantinople a tout de même assisté à la cérémonie au premier rang ce matin. Devant l'église orthodoxe, Justine Dinchet pour France Inter.
Voilà, une église située au pied du pont de l'Alma. Plus de 80 millions de promesses de dons pour le Téléthon. Une très légère hausse par rapport à l'année dernière. La présidente de l'Association française contre les myopathies a salué, elle l'avait pressenti, une mobilisation extraordinaire des Français pour cette 30e édition qui se poursuit toute la semaine puisqu'on peut encore donner au 36-37 ou sur le site téléthon.fr. En foot, c'est ce qui s'appelle gâcher la fête alors que leur équipe menait 1-0 hier soir au stade Saint-Symphorien de Metz. Des supporters ont voulu jouer du pétard en visant le gardien de but lyonnais, Anthony Lopez, qui a d'ailleurs été blessé, tout comme le médecin du club venu le soigner sur la pelouse. Le match interrompu à la 30e minute a été finalement annulé et le club de Metz pourrait d'ailleurs le payer très cher. Le porte-parole d'un groupe de supporters avoue ne pas comprendre.
Là, je le condamne, même si on a déjà fait des conneries aussi. Mais c'est en plus complètement irresponsable, surtout quand on mène 1-0. Et après avoir fait un premier jet de pétard, d'en rajouter encore 3 ou 4, c'est d'irresponsabilité. Et c'est pour ça que vous avez pu entendre les frictions qui se passent entre notre tribune et la tribune Est, parce que là, on ne peut pas tolérer ce qui s'est passé de l'autre côté, quoi. L'irresponsabilité de certains supporters ou pseudo-supporters. Bon, je fais partie d'un groupe, on doit savoir où s'arrête la bêtise. Et là, je crois que la bêtise s'est pas arrêtée.
Voilà, le porte-parole de Génération Grenat au téléphone de Nicolas Cruten, le président du club de Metz, avoue son impuissance. Il y a des situations qui échappent à toutes les mesures de précaution qui sont prises, dit-il, en espérant que son équipe ne sera pas déclarée perdante sur tapis vert. 3 Français dans les 4 premiers au géant de Val d'Isère ce matin, mais pas à la première place. Pour l'instant, Richard Vivion, à l'issue de la première manche, c'est Marcel Hirscher qui mène la danse.
Oui, je veux dire presque comme d'habitude, hein, Marcel Hirscher, n'est pas n'importe qui. Depuis 5 saisons maintenant, l'Autrichien caracole en tête, sacré 5 fois meilleur skieur du monde, toutes disciplines confondues. Donc Marcel Hirscher en tête ce matin sur la piste Aurier-Killy de Val d'Isère, mais juste, mais alors vraiment juste derrière lui, on retrouve Mathieu Fèvre, le premier de la bande des 4 fantastiques tricolores. Mathieu Fèvre avec 1 centième seulement de retard sur l'Autrichien. Derrière Mathieu Fèvre, il y a Thomas Fanara. Puis en 4e position de la première manche, toujours Victor Muffat-Jandet. Voilà pour les 3 Français collés vraiment à l'Autrichien. Et puis la petite déception quand même de la matinée. Relative, on attendait Alexis Pinturo, le meilleur géantiste tricolore un peu plus haut. Il occupe la 6e place, donc on voit quand même que la patrouille de France est très très près de l'Autrichien. Alexis Pinturo, 6e avec 1 seconde et 8 centièmes de retard sur Marcel Hirscher. On attendait le duel entre Hirscher et Pinturo. Les deux hommes dominent cette discipline du géant depuis 2 ans maintenant, puisque à eux deux, ils ont remporté 15 des 19 géants disputés sur le circuit Coupe du Monde depuis 2014. Il va falloir faire avec les autres Français, des tricolores qui depuis maintenant 1 an et demi ont toujours été présents au moins un représentant sur le podium. On se souvient aussi du fameux triplé, c'était en fin de saison dernière du côté de Saint-Moritz. La réponse maintenant, à savoir si un tricolore sera sur le podium d'ici quelques instants.
Voilà, Richard Vivion en direct de Val d'Isère. Un deuxième abandon dans le Vendée Globe. Le japonais Shireshi, après avoir dématé cette nuit, annonce qu'il sera impossible de réparer en mer et donc pas le choix. Son bateau Spirit of Yuko était en 12e position dans les mers du Sud, où Armel Le Cléache creuse l'écart en tête devant Alex Thompson. Allez, que trouverons-nous dans nos assiettes en 2030? Question posée par le Festival de l'Alimentation jusqu'à ce soir à la Cité des Sciences à Paris, première édition. Des conférences et surtout des ateliers de cuisine avec parmi les chefs Geoffrey Rambert de la Table du Flot à Paris, qui a quelques idées pour ses menus du futur. Sarah Vildeuil.
Dans les cuisines de son restaurant, le chef Geoffrey Rambert élabore déjà les plats du futur. Voici le menu du 3 décembre 2030.
Un petit hareng fumé avec une petite betterave en crapaudine pochée dans un jus hibiscus, avec un petit accord caillé de chèvre et un sponge cake aux algues.
Et pour ceux qui préfèrent les sandwichs, le chef a pensé à tout. Voici le jambon beurre version 2030.
C'est vraiment le petit parisien revisité. Donc j'enferme une saveur jambon dans une capsule végétale et je rajoute un siphon pain grillé beurre noisette. Et donc c'est vraiment, on va dire, le sandwich déstructuré à manger dans une assiette. En 2030, je pense vraiment que ce serait un produit qui pourrait être marrant.
Moins de viande, moins de poisson, mais plus de végétal comme les algues. La cuisine de 2030 nous réserve aussi des surprises comme ce pain au criquet.
Je suis tombé sur une interview d'un boulanger qui faisait un pain avec de la farine de criquet. J'ai trouvé ça très intéressant.
Intéressant, oui, mais Geoffrey Rambert reconnaît qu'il a encore quelques appréhensions.
Psychologiquement, je suis pas prêt, mais je pense que c'est l'avenir. Ouais. Surtout que c'est très protéiné, donc bon, pour la santé.
Ce week-end, le chef prévoit de montrer d'autres trouvailles sans insectes au menu anguilles fumées ou hareng avec des betteraves, légumes de saison oblige et bien d'autres surprises.
Voilà, ça fait pas forcément envie. Beaucoup de bonnes idées en tout cas pour François-Régis Gaudry. À 11h le dimanche matin sur Inter, le festival à table en 2030. C'est à la Cité des Sciences à Paris jusqu'à ce soir.
Merci Yves Decamp, on vous retrouve ce soir aussi à 19h pour un nouveau point sur l'actualité.